France Inter. Pierre Veil, le 6-9 de l'été.
Invité du grand entretien, Marc Lazard, politologue et professeur d'histoire et de sociologie politique, directeur du Centre d'histoire de Sciences Po. Bonjour Marc Lazard.
Bonjour.
Vous avez publié il y a quelques mois « Peuplecratie » chez Gallimard, une analyse du populisme sous toutes ses facettes, la souveraineté illimitée du peuple. C'est cela le populisme. Vous êtes un spécialiste de l'Italie où la coalition gouvernementale semble en difficulté, avec vous aussi des questions ce matin sur la Grande-Bretagne, de Boris Johnson, et puis les coups de colère de Donald Trump, ses propos absolument incendiaires ces derniers jours. Et puis on parlera de certaines pratiques politiques en France, dénoncées par la presse d'investigation, et c'est bien sûr l'affaire de Rugy. D'abord, Marc Lazard, l'Italie, le mouvement 5 étoiles et la Ligue gouvernent l'Italie depuis plus d'un an. Pourquoi cette coalition semble aujourd'hui menacée d'effondrement ?
Elle est menacée d'effondrement depuis qu'elle s'est constituée, puisque ces deux partis n'étaient pas du tout alliés au moment des élections de mars 2018. La Ligue était alliée à l'époque avec Forza Italia, c'est-à-dire le parti de Silvio Berlusconi, et une autre formation qui s'appelle Frères d'Italie, qui est quasiment une organisation fasciste. Et le mouvement 5 étoiles se présentait de son côté. Puis, pour différentes raisons, ils ont décidé de faire ce qu'ils appellent un contrat de gouvernement, qui était une sorte de copier-coller de leur propre programme, et avec beaucoup de contradictions. Ils ont des intérêts différents, ils ont des divergences, et depuis plus d'un an, effectivement, puisque ce gouvernement a été constitué le 1er juin 2018, il y a des tensions continues.
Mais sur quel point il y a des tensions et des désaccords actuellement qui font que cette coalition risque de disparaître très bientôt ?
Alors attention, moi je pense qu'elle ne disparaît, peut-être que je vais me tromper, oui. Mais je vais vous faire une prédiction, je pense qu'elle n'éclatera pas avant l'année prochaine, pour différentes raisons.
Mais effectivement, pour quelle raison ?
Pour les raisons très simples, c'est que si un parti doit déclencher la crise, c'est la Ligue. Parce que le mouvement 5 étoiles est en difficulté, il était le premier en mars 2018, il avait plus de 32% des voix, il a perdu beaucoup d'élections administratives, une élection régionale, perdu aussi les élections européennes. Il sait très bien que s'il y avait des élections anticipées, il perdrait encore plus, et donc le mouvement 5 étoiles veut absolument éviter l'hypothèse d'élections anticipées.
Mais pourquoi le mouvement 5 étoiles s'est effondré ?
Alors, effondré, attention, il a diminué ses voix par deux à peu près, donc c'est important, mais il reste très implanté dans le Sud. Je crois qu'il s'est effondré parce que ça, c'est une très bonne illustration d'un des défis du populisme, c'est quand il arrive au pouvoir, d'être obligé d'honorer des promesses parfois très différentes. Le mouvement 5 étoiles, à la différence de la Ligue, celle de Matteo Salvini, est une formation qui regroupe des gens plutôt venus de gauche, des gens venus plutôt de droite, des gens qui sont présents dans le mouvement 5 étoiles pour des considérations écologiques. Il y a beaucoup de contradictions et elles éclatent. Je vais vous prendre juste un exemple, puisque vous me dites sur quoi il peut y avoir des tensions. Il y a un projet qu'on connaît bien en France, qui est le projet de relier par le TGV, en italien on dit le TAV, les trains à haute rapidité, alta velocità. Cette ligne de chemin de fer doit raccorder Lyon à Turin. Depuis le début, le mouvement 5 étoiles est opposé. La Ligue est pour, parce qu'elle représente aussi les intérêts des entrepreneurs du nord de l'Italie. Et Matteo Salvini, sur la lancée de sa victoire aux élections européennes, a imposé au mouvement 5 étoiles le fait que le chantier se fera. Et bien, ça, c'est un très bon exemple, car le mouvement 5 étoiles est littéralement sous le choc. Il a finalement accepté la construction de cette ligne de train à grande vitesse, et ça met ce mouvement en immense difficulté. Donc oui, il y a des tensions très fortes, il y a des intérêts divergents, mais pour le moment, je vais employer une métaphore footballistique, le mouvement 5 étoiles colle à la culotte de la Ligue pour essayer d'éviter une éventuelle hypothèse de crise et donc d'élection anticipée.
Pourquoi la Ligue de Salvini a un tel succès ? Elle avait fait un score assez modeste lors des législatives en 2018 et là, aux élections européennes, plus de 30%. Pourquoi la Ligue, ça marche ?
Mais je crois que ça marche d'abord à cause de Matteo Salvini. C'est incontestablement l'homme fort de l'Italie. Les Italiens considèrent qu'il est l'homme du futur. Et il y a une forme de grande popularité autour du personnage. Aussi parce que il a deux ou trois grands arguments de ses campagnes permanentes. C'est un homme qui passe plus de temps à faire de la politique sur le terrain que de s'occuper du ministère de l'Intérieur. Il est ministre de l'Intérieur. Et quels sont les points forts sur lesquels avance énormément Matteo Salvini ? L'immigration, dans votre journal, vous rappeliez la question des migrants. Ça, c'est un thème qui a une énorme résonance auprès de l'électorat italien, qui se méfie considérablement des migrants. Le deuxième thème, c'est la question de l'Europe. Et ça, c'est un élément important, parce que l'Italie, pays le plus europhile de toute l'Union européenne, est devenu un des pays les plus eurocritiques, voire plus eurosceptiques. Et puis, le troisième point, c'est tout ce qui relève de l'argumentaire de la sécurité de la vie quotidienne des Italiens. Et sur ces trois points, Matteo Salvini a construit sa popularité.
Son intransigeance sur le dossier de l'immigration, cette intransigeance de Salvini, cela plaît aux Italiens. Il y a une majorité très nette en faveur de sa dureté, de son refus d'accueillir des gens qui tentent de traverser la Méditerranée et qui risquent leur vie.
Oui. Oui, et clairement. Et il faut essayer de comprendre pourquoi, et pas de juger. En tout cas, c'est la position d'un chercheur. Essayer de comprendre cela. Bah, comment on peut le comprendre? D'un côté, parce que il y a eu des arrivées massives des immigrants, enfin de ce qu'on appelle des migrants, dans des conditions absolument dramatiques que vous venez de rappeler, à partir de 2013 et 2014. Ça s'est réduit depuis un an et demi, deux ans même. Ça avait commencé avant ce nouveau gouvernement. Et les Italiens ont eu le sentiment d'être littéralement abandonnés par les autres pays de l'Union européenne, et en particulier par la France. D'où le fait, et ça s'est très bien apparu dans un sondage que récemment nous avons présenté à Sciences Po le 20 juin, un sondage fait en France et en Italie, où on voit qu'il y a du coup un sentiment anti-français très fort actuellement en Italie. Donc ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, en dehors de ce sentiment d'abandon, qui n'est pas simplement un sentiment, c'est une réalité, il faut vraiment le comprendre, il y a une sorte d'angoisse italienne par rapport à l'immigration. Il y a actuellement 5 millions d'immigrés réguliers en Italie, 4 fois plus qu'en 2001, dans un pays qui, dans son histoire récente, n'était pas habitué à cela, avec un certain nombre de problèmes d'intégration, même s'il y a tout un travail qui est fait par des associations caritatives, qu'elles soient catholiques en particulier ou laïques, mais il y a effectivement des tensions xénophobes, pour ne pas dire racistes, dans ce pays.
On parle de cette coalition gouvernementale avec au ministère de l'Intérieur Matteo Salvini et puis au ministère du Développement économique le chef du mouvement 5 étoiles Luigi Di Maio, et on se pose la question, mais à quoi sert le président du Conseil Giuseppe Conte?
Alors Giuseppe Conte, effectivement, est un universitaire qui a été nommé là plutôt avec une sensibilité proche du mouvement 5 étoiles et qui, au départ, moi je l'avais qualifié de notaire qui exécutait le contrat. Ouais. Depuis quelque temps, Giuseppe Conte essaye d'affirmer son autorité, notamment par rapport aux instances européennes. Il est très lié à une autre figure très importante dans les institutions italiennes, qui est le président de la République, monsieur Sergio Mattarella. Il essaye de crédibiliser, et c'est très compliqué actuellement, la réputation de l'Italie au niveau européen et international, parce que justement les critiques de Matteo Salvini et de Luigi Di Maio ont affaibli l'Italie au niveau européen. Il essaye d'imposer sa marque et il fait un jeu d'équilibriste. Et par exemple, sur une affaire qui est très compliquée actuellement pour Matteo Salvini, qui est peut-être les suspicions de financement russe pour la Ligue, pour le parti de Matteo Salvini.
On rappelle que des hommes d'affaires russes ont été vus en compagnie de proches de Matteo Salvini.
Et invités, ces proches invités par Matteo Salvini à l'occasion d'un voyage du ministre de l'Intérieur en Italie. Et donc c'est quelque chose de très grave, et c'est pour ça aussi que Matteo Salvini...
Donc il y a des soupçons de financement occulte.
Des soupçons de financement occulte, sachant qu'il y a un lien très fort entre Matteo Salvini et Poutine. Les deux partis, le parti de la Ligue et le parti de Poutine, ont signé un accord. Et puis il y a cette fameuse déclaration en octobre 2018, lorsque Matteo Salvini est à Moscou, dans laquelle il dit qu'il se sent plus à l'aise à Moscou qu'à Bruxelles. Et donc Giuseppe Conte, à la fois, n'a pas désavoué tout à fait Matteo Salvini sur cette affaire de financement, en disant qu'il n'en a pas les preuves, mais en même temps, s'est démarqué. Et c'est le jeu constant. Mais Giuseppe Conte est très faible, il n'a pas de parti, et il n'a pas d'élu, il n'a pas de parlementaire.
Marc Lazare, politologue et professeur d'histoire et de sociologie politique, est l'invité du grand entretien sur France Inter ce matin. Marc Lazare, la Grande-Bretagne et son nouveau Premier ministre, Boris Johnson. Quand Boris Johnson dit ce week-end à Manchester, je le cite, hein, « Quitter l'Union européenne est une énorme opportunité économique pour faire des choses que nous n'avons jamais été autorisés à faire pendant des décennies. » C'est du populisme ?
Je crois qu'incontestablement, il y a une dimension populiste. Alors, toute dépense qu'on entend par populiste, c'est toujours l'éternel problème. Si vous voulez, en gros, vous avez deux positions. Ceux qui considèrent que le populisme est une idéologie plus ou moins structurée, et ceux qui, comme moi et mon collègue Ilvo Diamanti, avec qui j'ai fait ce livre, considèrent que c'est plutôt un style avec quelques petits ingrédients idéologiques. Et ce qui est intéressant dans le cas de Boris Johnson, c'est qu'il vient du Parti conservateur, mais qu'il a un style populiste, c'est-à-dire la démagogie, c'est-à-dire la simplification. Et puis, un autre élément fondamental qui est un renversement renversement historique pour l'histoire de la Grande-Bretagne qui consiste à remettre en cause la prééminence du Parlement, parce qu'il a déclaré, c'est son programme, qu'éventuellement il se dispenserait de l'avis du Parlement pour aller vers un Brexit no deal, c'est-à-dire sans accord. Et le Parlement a d'ailleurs dit qu'il n'en était pas question. Donc oui, il y a un style populiste, et pour nous, Ylvo Diamanti et moi, ça illustre l'idée de cette peuplocratie, parce que vous avez eu l'amabilité de citer ce livre, mais qu'est-ce que ça veut dire la peuplocratie? Quelle est la différence avec la démocratie, puisque démos en grec, c'est le pouvoir du peuple? Eh bien, c'est le fait que la démocratie, c'est bien sûr le pouvoir de la souveraineté populaire, mais avec une série de contre-pouvoirs, avec les règles de l'état de droit, avec l'existence d'agences, parfois d'expertise. C'est tout ce qui concerne la délibération. La peuplocratie, c'est effectivement cette idée de la souveraineté du peuple sans limite, répercutée, amplifiée par notamment les médias et les réseaux sociaux.
Marc Lazare, comment expliquez-vous cette succession de déclarations incendiaires de Donald Trump ces dernières semaines? Retournez dans votre pays d'origine, c'est ce qu'il a dit à des élus démocrates qui critiquent sa politique. Et puis la ville de Baltimore, circonscription d'un opposant, un élu noir, infestée de rats et de vermine. Là encore, je cite Donald Trump. Comment interpréter ces déclarations qui font polémique et qui entraînent un débat extrêmement vif? On a vu un présentateur de CNN ce week-end, originaire de Baltimore, répondre les larmes aux yeux aux propos de Trump en disant « Eh bien, il y a des gens qui vivent à Baltimore, qui se défendent chaque jour pour travailler, qui sont motivés et ils sont citoyens américains comme vous, Monsieur Trump ».
Mais je crois que la réponse est dans votre question. C'est-à-dire que Trump est en campagne électorale, il est en campagne présidentielle. Il a besoin donc de radicaliser en permanence, de diviser, de polariser l'attention. Il s'adresse à son public, il essaye de mobiliser son électorat par ce type de déclaration. Et au-delà de ça, c'est effectivement une réflexion qu'on est obligé de faire sur les évolutions de la démocratie américaine. Et c'est le fait que là aussi, on a pour la première fois, pour la deuxième fois, mais enfin, si on remonte très loin dans l'histoire, ce serait une autre affaire, mais on a là l'exemple d'une forme de style populiste qui est en permanence au pouvoir aux États-Unis. Donc c'est de ce point de vue-là très intéressant de voir que c'est pas simplement l'Europe, on a aujourd'hui une transformation, une mutation de nos démocraties qui va justement vers ces polarisations permanentes, vers le fait d'utiliser les réseaux sociaux, de tweeter. On sait que Donald Trump quasiment tweete plus vite que son ombre, hein. On a l'impression qu'il est toujours en train de tweeter. C'est la même chose chez Matteo Salvini. Et ça, c'est une transformation fondamentale des équilibres de nos démocraties libérales et européennes.
Nos démocraties aux États-Unis, en Italie, Marc Lazare, on va évoquer la démocratie en France. Hier, dans le JDD, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, a jugé inquiétante la démission de François de Rugy. Il déplore que les ministres ne puissent plus résister à la pression d'un seul soupçon. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que nous sommes dans la République de la délation? C'était les mots d'Emmanuel Macron.
Je crois qu'il... Alors... Pour un chercheur comme moi, je crois qu'il faut faire très attention à cela et prendre un peu de distance. Éviter de tomber dans les pièges actuellement qui sont tendus à la fois par certains journalistes, excusez-moi, et par aussi les responsables politiques. Il faut éviter cette idée qu'il y aurait une tyrannie médiatique et de l'autre côté cette idée qu'il y a ou cette pratique de la stigmatisation de tous les responsables politiques. Si on fait attention à cela, eh bien, je crois qu'il faut réfléchir. C'est très bien que Mediapart fasse son travail. C'est même très sain. Ce qui est plus compliqué, c'est si jamais ce type de révélation aboutit à une sorte de substitution à la justice et aux affaires de la justice. Et ce que l'on voit, eh ben, nous, quand on parle de peuplocratie, c'est cette idée de la démocratie immédiate. C'est-à-dire la démocratie immédiate, c'est l'idée qu'il y a de moins en moins de corps intermédiaires. Les partis politiques, les organisations d'intérêts sont en crise. Et par conséquent, la médiation se fait très souvent à partir d'un leader, d'une personnalité. Et d'autre part, la démocratie est immédiate au sens que c'est l'instantané. Donc, il y a une révélation par Mediapart d'un certain nombre d'affaires liées à François de Rugy. Je constate d'ailleurs que François de Rugy a reconnu lui-même des erreurs, qu'il s'est même engagé à rembourser certains dîners, qu'il y a d'ailleurs une circulaire ministérielle d'Édouard Philippe qui a été prise pour organiser un certain nombre de dépenses, notamment pour les logements de fonction, que Richard Ferrand lui-même a proposé l'organisation d'un groupe de travail pour discuter, pour réfléchir sur les règles et les procédures budgétaires de l'Assemblée. Donc ça a touché quelque chose, incontestablement, et c'est quelque chose de sain, mais en même temps, je crois crois qu'on assiste effectivement à une transformation qui est très forte, qui est encore plus forte que par le passé, c'est-à-dire qu'un ministre est obligé de démissionner alors que deux autorités, celles proposée par le Premier ministre et celle proposée par l'Assemblée nationale, ont nuancé fortement les accusations. Il faut attendre, je crois, le temps de la justice. Et le problème, c'est que dans nos démocraties, on ne peut plus attendre ce temps-là.
Mais le symbole est-il devenu meurtrier en politique ?
Oui, certainement. Oui, incontestablement. Et je crois que là, c'est une transformation très forte. Il y a une suspicion généralisée à l'égard des responsables politiques. Pas d'ailleurs uniquement à l'égard des responsables politiques. Il y a ce qu'on a très bien, on sait très bien, une forme de défiance généralisée par rapport à ceux qui sont en situation de responsabilité. Ça veut dire aussi que pour les responsables politiques, il y a une exigence d'honnêteté, de transparence et d'exemplarité.
Marc Lazare, des questions pour vous au standard d'Interactive 01 45 24 7000. Benjamin est en ligne. Bonjour Benjamin, merci d'écouter France Inter.
Bonjour, je voudrais poser une question.
Allez-y.
Marc Lazare. L'élection de Donald Trump, puis celle de Matteo Salvini et maintenant de Boris Johnson, n'est-elle pas aussi une réaction au politiquement correct de la part du peuple ? C'est-à-dire quand Hillary Clinton propose la création obligatoire de toilettes transsexuelles dans son programme, est-ce que ça concerne vraiment le peuple ? Est-ce que le peuple ne se sent pas déconnecté de ces propositions qui sont finalement assez minoritaires ? Et à force de parler à tout le monde, on ne parle plus à personne.
Marc Lazare ?
Je crois qu'il faut, si je peux me permettre, faire attention à cette idée de la réaction du peuple. C'est une partie de l'électorat. Je rappelle que Donald Trump a eu moins de voix qu'Hillary Clinton. C'est par le type de système électoral qui existe aux États-Unis.
Système des grands électeurs.
Oui, mais il a eu moins de voix qu'Hillary Clinton. Matteo Salvini a eu 17% des voix lors des élections de mars 2018. C'est pas le peuple, c'est une partie du peuple.
Mais lors des élections européennes, Salvini, la Ligue,
32%. Non, ouais. Tout à fait. Non, je ne nie pas, évidemment, je ne nie pas la dynamique, le mouvement populiste, les forces qui poussent en avant le populisme. Alors, cela dit, votre auditeur, au-delà de cette première réponse, soulève une question. C'est effectivement le décalage qui peut exister entre certaines politiques mises en place par différents gouvernements et la manière dont c'est ressenti par une fraction des catégories du peuple, pas du peuple en entier. Moi, j'avais été très frappé au moment de la crise des Gilets jaunes, d'ailleurs, dont je pense que le président Emmanuel Macron a dit quelque chose d'important récemment à Bormes-les-Mimosas. Il prend conscience que c'est loin d'être fini. On n'aura pas, avec une telle importance de ce mouvement social, une telle durée, ça ne va pas s'effacer du jour au lendemain. Mais j'avais été très frappé, sans doute comme vous et comme beaucoup d'auditeurs, par cette déclaration d'une gilet jaune au journal Libération, je me souviens bien, qui disait « Eux parlent de la fin du monde, nous parlons de la fin du mois ». Ce décalage très important entre les préoccupations d'une série de populations en souffrance par rapport à des politiques publiques mises en place par les gouvernements est un vrai problème, un vrai défi qui explique aussi le succès d'un certain nombre de ces formations dites populistes.
Marc Lazare, des courriels sur le site de l'émission sur le 6-9 de l'été. Suzanne nous a écrit le saccage de plusieurs permanences de députés de la majorité ce week-end. Est-ce que ça ne montre pas qu'il devient très compliqué en France de débattre ou simplement d'être en désaccord?
Oui, c'est vrai et c'est inacceptable. On peut être en désaccord et évidemment ce n'est pas une raison pour aller détruire les permanences de La République En Marche ou d'une autre formation politique. On sent qu'il y a une tension très importante, une polarisation très forte, une radicalisation des comportements. Et c'est préoccupant justement pour les transformations, c'est préoccupant pour les mutations de nos démocraties aujourd'hui. Et c'est vrai aussi que c'est favorisé, encore une fois, je pense que vraiment qu'il faut prendre la mesure de cette transformation fondamentale des réseaux sociaux. Parce que vous savez très bien que dans les réseaux sociaux, on reste dans son silo. On fréquente très peu les sites avec lesquels on est en désaccord. Et de ce point de vue-là, le grand problème aujourd'hui, c'est la capacité ou pas de reconstituer une forme de véritable agora dans lequel chacun peut exprimer son opinion et éventuellement en changer et ne pas être obligatoirement dans l'agressivité et le dialogue de sourds. Et c'est un vrai problème actuellement dans la démocratie française.
Marc Lazare, des questions, là encore des courriel sur le site de l'émission à propos de ce gouvernement italien qui tangue actuellement cette coalition, le mouvement 5 étoiles et la Ligue de Matteo Salvini. On nous demande, est-ce que ce gouvernement a tenu ses promesses ? Qu'est-ce qu'il a changé depuis qu'il est au pouvoir, mis à part l'intransigeance et la fermeture des ports aux migrants ?
Non, le gouvernement a réalisé un certain nombre de choses qu'il avait annoncées. D'abord, effectivement, sur la question des migrants, vous l'avez dit, la fermeture des ports, même si ça a suscité des controverses au sein du mouvement 5 étoiles. Le fait qu'ils ont engagé un bras de force avec la Commission européenne à l'automne dernier, même s'ils ont dû faire des concessions. Le fait aussi qu'ils ont réformé les retraites, c'est une réforme qui suscite énormément de polémiques. À l'époque du gouvernement de Mario Monti en 2011, il y avait une réforme des retraites très dure pour les Italiens. Et là, Matteo Salvini était très en pointe sur ce sujet. Et il donne la possibilité à des gens de partir à la retraite à partir de 60 ans. Il y a eu aussi tout ce qui concerne le revenu de citoyenneté pour les Italiens les plus pauvres, en particulier dans le sud de l'Italie. Oui, ce gouvernement a fait des choses. Après, il y a tout un débat. Est-ce que c'est des bonnes choses ou pas? Quel va être le prix de cela? Il faut savoir que ce gouvernement est en train de creuser encore plus la dette publique, qui est aux alentours de plus de 130% du produit intérieur brut. Donc ça pose une série de questions. Mais oui, ce gouvernement a fait des choses. Et je vais ajouter un élément très important de réflexion, c'est que ce gouvernement est actuellement, malgré ses polémiques, malgré ses contradictions, malgré ses crises récurrentes, un gouvernement qui a un énorme soutien populaire, et même, je vais encore plus loin, parce qu'on a des enquêtes à cet égard, c'est le gouvernement le plus populaire actuellement dans l'Union européenne sur la même durée de vie, c'est-à-dire un peu plus d'un an. Donc ça, c'est des éléments à prendre en considération. Ces formations populistes ont aussi du succès. Jusqu'ici, on avait une théorie très simple. Lorsque les populistes arrivent au pouvoir, ils se fracassent sur le mur de la réalité. C'est le cas pour le mouvement 5 étoiles, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais ce n'est pas le cas de la Ligue.
Un commentaire d'auditeur sur le site de l'émission à propos de la situation en Italie et du succès de Matteo Salvini. Salvini, c'est Robert qui l'écrit, il sait travailler sur les peurs des Italiens et les exploiter.
Oui, c'est vrai, et notamment la peur de l'immigration, la peur des migrants, la peur de l'Europe. Matteo Salvini est effectivement un homme qui joue là-dessus, qui exacerbe les peurs, d'autant plus qu'il a effectivement ce problème en plus avec les Russes, comme je le disais tout à l'heure. C'est un homme politique qui sait utiliser les réseaux sociaux. Il est suivi par énormément de followers et a beaucoup de likes parmi les plus importants de toute l'Union européenne. C'est incontestablement l'homme politique du présent et peut-être du futur de l'Italie.
Marc Lazare, politologue, professeur d'histoire et de sociologie politique, était l'invité du grand entretien de France Inter ce matin. Je rappelle que vous avez publié il y a quelques mois « Peuplecratie » chez Gallimard, une analyse très forte, très fine du populisme sous toutes ses facettes. Merci beaucoup.
Merci à vous.